de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, One Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Serviteurs, bonsoir, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La qualité des événements touristiques doit être plus attrayante pour augmenter le nombre de touristes étrangers, a déclaré le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Wisnu Tama. La Corée du Sud est avancée en raison d'un investissement intensif dans le développement des capacités des ressources humaines, a déclaré le directeur de l'IPI. Le nouvel ministre de l'Éducation et de la Culture s'est concentré sur l'amélioration des capacités et du bien-être des enseignants. L'IPI ouvre le Salon scientifique indonésien 2019 pour accroître la compétitivité de la recherche et des sciences et technologies. La Suède espère renforcer sa coopération avec le nouveau gouvernement indonésien. DPR reçoit la lettre du président relative à Idham Aziz remplaçant Tito. Et enfin, le vice-président de Bangka accueille des touristes de 14 pays. Voici le journal complet. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a cédé ses fonctions à Wisnu Tama Kusubandio mercredi le 23 octobre 2009 à Susilo Sudarman Hall au ministère du Tourisme à Jakarta. Lors d'une conférence de presse, le ministre Wisnu Tama a déclaré que l'événement du calendrier touristique existant devait être élaboré plus sérieusement pour attirer les touristes étrangers.
Event itu memang harus betul-betul dipikirkan. Tidak bisa cuma sekedar banyak, tetapi kualitasnya perlu dipikirkan betul.
L'événement doit être bien organisé. Ce n'est pas seulement un grand nombre, mais il faut prêter attention à la qualité. Alors, quand les gens viennent à l'événement, ils veulent revenir. C'est ce qui est important. Il y a donc un impact de renforcement, de sorte que lorsque les gens ressentent l'expérience et que cette personne l'aime, elle le fera par des médias sociaux ou des amis. Wisnu Tama a ajouté que les événements sur lesquels on travaille sérieusement et qui attirent les touristes étrangers seront en mesure d'accroître les devises du pays. Avec un meilleur soutien des infrastructures, le tourisme indonésien pourra atteindre les objectifs. Le directeur de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, Laksana Trihandoko, a déclaré que dans les années 60, l'Indonésie et la Corée du Sud étaient au même niveau. L'Indonésie était bien meilleure que la Corée du Sud, mais maintenant la Corée du Sud est capable d'aller de l'avant. C'est ce qu'a déclaré Laksana Trihandoko au séminaire organisé par l'IPI avec l'Institut de politique scientifique et technologique sud-coréen, STEPI, au bâtiment de l'IPI à Jakarta, mardi. Selon Tri, le retard de l'Indonésie par rapport à la Corée du Sud, car ce pays avait beaucoup investi dans le développement des capacités en ressources humaines.
Jadi apa kita start dari hal yang sama.
Nous avons commencé sur la même chose. Nous étions encore meilleurs dans les années 60, mais nous sommes maintenant très loin derrière. Cela signifie que nous avons vraiment quelque chose. le premier en termes de capacité, notamment lié aux ressources humaines. Donc, ce qu'on appelle science et technologie est en réalité la personne, pas la technologie. La science est dans la personne. Yongrak Choi, chercheur senior au STEPI, a déclaré que si l'Indonésie disposait de capacités suffisantes en ressources humaines, en sciences et en technologie et en innovation solide, c'est la clé du développement de l'Indonésie. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, Nadiem Anwar Makarim, a annoncé mercredi à Jakarta qu'il a l'intention de créer une éducation basée sur les compétences et les caractères pour développer le secteur de l'éducation et de la culture en Indonésie. Après avoir prêté serment au palais de l'État à Jakarta, Nadiem a déclaré que l'effort serait commencé par l'amélioration des capacités et du bien-être des enseignants.
Harapan saya ke depan adalah untuk menciptakan suatu pendidikan yang berbasis.
Mon espoir pour l'avenir est de créer une éducation basée sur les compétences et le caractère qui est extrêmement importante pour nous, en particulier commencer par l'enseignant. En ce qui concerne les capacités et le bien-être de l'enseignant, c'est la chose la plus importante. Parce que l'étudiant seulement peut aussi bon que l'enseignant. Nadiem Makarim a également mentionné le rôle important de la technologie dans le développement du secteur de l'éducation et de la culture. Selon lui, l'Indonésie possède le quatrième plus grand système éducatif au monde, de sorte que l'utilisation de la technologie est importante pour que la qualité et l'efficacité de l'éducation puissent être atteintes.
Mau nggak mau dengan 300.000 sekolah dan 50 juta murid.
Avec 300 000 écoles, 50 millions d'élèves, le rôle de la technologie sera très important dans la qualité, l'efficacité et la gestion d'un système éducatif. N'oubliez pas qu'il s'agit du quatrième plus grand système éducatif. Le rôle de la technologie, c'est très important. Nadiem Anwar Makarim est l'un des ministres du cabinet indonésien avancé, élu par les professionnels. Il a quitté son poste au sein de l'entreprise Gojek qu'il avait dirigé pour se concentrer sur un nouveau poste de ministre mandaté par le président Joko Widodo. Le directeur de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, Laksana Trihandoko, a ouvert le Salon scientifique indonésien IC 2019 sur le thème « La biodiversité indonésienne pour une vie meilleure et durable à l'avenir ». IC 2019 encourage la collaboration de recherche, de sciences et de technologies avec les ressources humaines pour renforcer la compétitivité mondiale. Laksana Trihandoko a déclaré que l'exposition de la recherche, de la science et de la technologie impliquait également des participants de différents pays, dont le but était de présenter les progrès de la recherche, de la science et de la technologie de l'Indonésie. Cela est une étape concrète de l'IPI dans le développement de la science, des réseaux de sciences et de technologies sur la scène mondiale. La biodiversité est l'une de nos compétences locales que nous avons pour que nous puissions rivaliser avec les chercheurs de l'extérieur au niveau mondial. Les biens provenant de l'Indonésie et décroître la compétitivité locale. IC 2019 est la cinquième depuis l'an 2015 et présente les derniers développements sur la recherche, la science et la technologie en Indonésie. Laksana Trihandoko a révélé qu'IC 2019 est une activité appartenant à la communauté et accessible à tous. Les étudiants sont censés décroître plus leur intérêt pour le développement de la recherche, de la science et de la technologie. Nous espérons que cet événement deviendra la propriété de la communauté et qu'il jouira directement de la science et de la recherche de divers siècles allant des enfants aux chercheurs professionnels. Laksana a ajouté que l'IC 2019 devenait une plateforme rassemblant le public de diverses arrières, allant des universitaires aux représentants du gouvernement, de l'industrie, aux étudiants et au grand public. L'IC 2019 aura lieu du 23 au 26 octobre 2019 à ISBSD Serpong, Banten, qui est ouverte au public gratuitement. Le gouvernement suédois espère qu'avec le début d'un nouveau gouvernement indonésien dirigé par le président Joko Widodo, les relations bilatérales avec l'Indonésie amélioreront. L'ambassadrice de Suède en Indonésie, Marina Berg, a déclaré mercredi à Antara à Jakarta que Les relations bilatérales entre les deux pays établies depuis 1950 s'approfondissent et se développent chaque année. Les relations de coopération entre les deux pays sont fortes dans le domaine économique, en particulier l'investissement des entreprises suédoises en Indonésie avec une valeur croissante et l'ajout de plusieurs entreprises souhaitant venir en Indonésie. Le vice-président du Parlement au DPR, Sufmi Dasko Ahmad, a déclaré que le DPR avait reçu une lettre présidentielle contenant la proposition du commissaire de police, le général Idham Aziz, candidat au chef de la police présidentielle, remplaçant le général de police Tito Karnavian, nommé ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'a affirmé Sufmi Dasko Ahmad à Jakarta mercredi. L'officier de police de haut rang, dont le nom a été mentionné dans la lettre du président, est désormais le chef de l'agence d'investigation criminelle de la police indonésienne. Elle a ajouté que la lettre du président vient d'être reçue par le Parlement mercredi à 9h heure locale. Selon lui, le processus suivant est un test approprié après la formation du chef et des membres de la commission 3 du DPR. Selon lui, le commissaire général de la police Aridono détient toujours le chef par intérim de la police indonésienne avant que la commission 3 de DPR approuve la candidature d'un seul candidat au poste de chef de la police indonésienne présenté par le président Jokowi. Syahbuddin, vice-régent de Bangka dans la province des îles de Bangka Belitung, a accueilli l'arrivée de touristes de 14 pays lors du grand événement annuel Wonderful Sale 2019. Dans son discours à Sungai Liat mercredi, M. Syahbuddin a déclaré que l'activité Wonderful Sale était un programme stratégique visant à présenter le potentiel de tourisme et des richesses culturelles au monde. Il espérait que l'activité qui s'est déroulée du 22 au 25 octobre pourrait augmenter le nombre de touristes étrangers se rendant dans la région de Bangka. Comme l'a écrit Antara, les touristes de 14 pays sont accueillis par l'art traditionnel de Bangka à travers la combinaison de la culture locale et l'ethnie chinoise, à savoir l'attraction de la danse du lion et la danse akeyante. Pendant ce temps, la secrétaire de l'équipe de l'accélération du développement du tourisme maritime du ministère indonésien du tourisme, Ratna Surante, a exprimé sa reconnaissance pour l'hospitalité des résidents de Bangka dans l'accueil des touristes. Il a espéré que les caractéristiques de l'hospitalité pourraient être maintenues afin qu'il fournisse sa propre valeur aux touristes étrangers venant à Bangka. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Le cabinet Indonésia Maju ou Indonésie Progress 2019-2024 ». Enfin, le président Joko Widodo a annoncé la composition de son cabinet 3 jours après l'investiture du président. Avec le vice-président Kyai Ma'ruf Amin, le président Joko Widodo a fait quelque chose d'inhabituel en annonçant ses assistants pour les 5 prochaines années. Devant le palais d'État, le président qui est assis détendu sur les marches a présenté chacun de ses collaborateurs devant les médias. Il y a 34 ministres et 4 positions au niveau ministériel. Ils travailleront ensemble pour achever la deuxième période de leadership de Joko Widodo et Ma'ruf Amin afin d'atteindre les objectifs « La meilleure Indonésie ». Pendant 3 jours, les Indonésiens ont vu des personnalités qui vont et viennent au palais de l'État pour recevoir des convocations du palais. Beaucoup ont spéculé sur le bon chiffre pour soutenir le président pendant les 5 prochaines années. Le président Joko Widodo a tenu sa promesse selon laquelle son cabinet aurait plus de professionnels et moins de politiciens. Plus de 56% sont des professionnels. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Joko Widodo a nommé Prabowo Subianto, son ancien rival au poste de ministre de la Défense, c'est une position très stratégique dans un gouvernement. En outre, l'ancien chef de la police nationale, Tito Karnavian, comme ministre de l'Intérieur, est devenu un sujet brûlant. Comme nous le savons, le président Joko Widodo a des droits prérogatifs. Il semble qu'il n'ait pas voulu être dicté par ses partisans, car ce serait fatal pour son gouvernement. avec le vice-président Kiai Haji Ma'ruf Amin, le président également invité la jeune génération à adhérer en tant que moteur du développement national. Plus exagérément, avec le prochain bonus démographique national, le gouvernement veut faire preuve de la volonté d'agir vite afin que l'Indonésie puisse rattraper ses voisins. Malgré les pour et les contre des ministres élus d'Indonésie, personne n'est parfait. Tout le monde a sa propre faiblesse et force, mais ce qui est le plus important est le professionnalisme des adjoints du président dans l'exécution d'une meilleure bureaucratie et ce qui peut faire avancer l'Indonésie. Avec le slogan « Travailler, travailler, travailler », espérons que la bureaucratie au sein du gouvernement accélérera toutes les affaires et facilitera le développement et l'économie. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui le 24 octobre. On commence par le 24 octobre 1931. On a ouvert officiellement le pont George Washington au trafic de transport en commun. Le pont George Washington est un pont suspendu au-dessus de la rivière de Hudson aux États-Unis qui relie New York et Fort Lee, New Jersey. Il mesure 4750 pieds de long ou 1584 mètres de long et a été conçu par Otmar Hermann Amann. La construction a commencé le 21 octobre 1927. Le 24 octobre 1931, on a ouvert l'étage supérieur au public. On a ajouté et ouvert le rez-de-chaussée au transport en commun le 29 août 1962. La travée principale du pont atteignait 1067 mètres ou 3500 pieds et la largeur était de 36 mètres ou 119 pieds. Le pont est supporté par quatre câbles pesant chacun 28 450 tonnes et constitué de 26 474 fils spéciaux. Puis l'Organisation des Nations Unies a été créée le 24 octobre 1945. Les Nations Unies ont été créées pour encourager la coopération internationale. Cette organisation internationale a remplacé la Société des Nations, créée après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Lors de sa fondation à San Francisco, le 24 octobre 1945, les Nations Unies comptaient 51 pays membres. Maintenant, l'Organisation des Nations Unies compte 193 membres, et deux pays observateurs. L'Organisation des Nations Unies a une constitution appelée la Charte des Nations Unies, rédigée lors d'une conférence d'avril à juin 1945. La Charte est entrée en vigueur le 24 octobre 1945 après avoir été ratifiée par cinq États membres fondateurs, à savoir la République populaire de Chine, la France, l'Union soviétique, l'Angleterre et les États-Unis. La journée nationale des médecins est identique à l'anniversaire de l'Association des médecins indonésiens. Au début, cette organisation s'appelait Vereniging van Indische Artsen en 1911. Après l'indépendance de l'Indonésie, le 24 octobre 1950, une association médicale officielle portant le nom d'Association des médecins indonésiens a été créée. Puis chaque année, on commémore le 24 octobre en tant qu'anniversaire de l'Association des médecins indonésiens, ce qu'on appelle la Journée nationale des médecins. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini, aku di sini. Dimana aku di sini?
Voilà la chanson intitulée « Dimana aku di sini » qui signifie « Où suis-je ici ?» chantée par Naïf. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Pour vous, chers auditeurs, la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique Indonesiaku ou Mon Indonésie, intitulé Le film Semesta ou Univers, est utilisé pour la campagne de sensibilisation au changement climatique. Le film documentaire Semesta ou Univers, qui raconte des efforts pour protéger l'environnement de diverses perspectives, telles que la religion et la culture, sera utilisé dans le cadre de la campagne pour accroître la sensibilisation au changement climatique. Le directeur général de la lutte contre le changement climatique du ministère de l'Environnement et des Forêts, Ruanda Agung Sugadirman, lors d'une conférence de presse à Jakarta mardi, a déclaré que ce film décrit la sagesse locale, les valeurs sociales et culturelles et la religion de différentes régions d'Indonésie. Ce qui donne un exemple de bon comportement dans la gestion de la vie en harmonie avec la nature. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a coopéré avec PT Talamedia pour présenter le film Semesta dans le cadre d'une campagne afin d'accroître la sensibilisation aux effets du changement climatique. Monsieur Ruanda Agung Sugadirman a déclaré que le film documentaire s'est déroulé dans 7 provinces indonésiennes, à savoir Aceh, Bali, Jakarta, Nusa Tenggara Est, Kalimantan Ouest, Papouasie et Yogyakarta, et cela montre les efforts des individus et des groupes pour protéger l'environnement et des forêts. Les personnes qui sont documentées proviennent de différents milieux culturels, religieux, mais ils ont des similitudes pour préserver la nature. Selon l'acteur Nicolas Saputra, le commissaire de PT Talamedia, et l'une des personnes à l'origine du documentaire, l'équipe de production a mené des recherches pour trouver les personnages appropriés au documentaire. Nicolas Saputra a donné un exemple. Le film documentaire raconte les efforts de chefs religieux d'Aceh et de Flores dans l'est de Nusa Tenggara de faire des efforts pour vivre en harmonie avec la nature et développer des sources d'énergie respectueuses de l'environnement. Il a déclaré que le film documentaire devait être enregistré à plusieurs festivals de films internationaux avant d'être diffusé devant le public. En novembre, le film Semesta ou Univers sera diffusé au Festival de l'environnement à Barcelone. Certaines attendent encore une réponse. Ce film sera également diffusé sur le réseau du cinéma au début de l'année prochaine et sera promu pendant 2 mois. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice C'était la deuxième chanson intitulée Hayalan ou en français Illusion, chantée par The Groove. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.it. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la bouillie de Madura. La bouillie est un repas typique indonésien connu depuis longtemps. Cette bouillie est faite à partir du riz et divers types de farine. Il existe différents types de bouillie avec des arômes et des caractéristiques à chaque région. Il y a sûrement un goût sucré ou salé. Cette gastronomie est presque couramment trouvée dans différentes villes d'Indonésie. Par exemple, si vous visitez Surabaya, dans l'est de Java, essayez de goûter à la bouillie de Madura. La bouillie de Madura se compose de divers types de bouillies combinées en une seule. Par exemple, la bouillie de soumsoum, la bouillie de riz gluant noir et la bouillie de chandel. La bouillie de soumsoum est fabriquée à partir de farine de riz. La bouillie de chandel est faite d'un mélange de farine de riz et de pommes de terre bouillies. La pâte de chandel est formée rond avec une taille selon le goût. Le riz gluant noir et la farine de perles sont mélangés pour devenir une bouillie de riz gluant noir et une bouillie de perles. Avant de servir, les bouillies sont versées avec du lait de coco et du sucre brun. Lorsqu'elle est consommée, la combinaison de bouillies salées marinées accompagnée de lait de coco se mélange immédiatement à la douceur de la sauce au sucre brun. Le goût sucré et salé est garanti pour rendre quiconque le tente devenir accro. À Surabaya, le célèbre chantre de la bouillie de Madura se trouve à Pasar Atom, situé au rez-de-chaussée. Vous trouverez ici des vendeurs de bouillie de Madura. Ils sont vendus depuis plus de 20 ans. Cette bouillie est généralement vendue le matin au menu du petit déjeuner. En plus de vendre la bouillie de Madura, les commerçants vendent aussi une variété de collations. La plupart des ingrédients sont de la farine de tapioca et aux couleurs variées. Le prix est relativement bon marché, de 7000 rupiah à 10000 rupiah par portion.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Kau cium bibiku, kau bilang
janganlah ku pergi. Pujuk rayu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, ku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Pasto, dont le titre est « Aku pasti kembali » ou en français « Je reviendrai ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur l'exposition Bali Megarupa. Iwayan Adnyana, responsable du bureau de la culture de la province Bali, a déclaré que l'état des beaux-arts à Bali dans les années 1980 à 1990 était très passionnant. À cette époque, Bali devient une vitrine pour les œuvres d'artistes nationaux et internationaux. Ils sont très fiers d'exposer leurs travaux à Bali. Mais en entrant dans les années 90, Bali semblait perdre sa position de lieu d'événements artistiques nationaux. Selon lui, l'un des facteurs était qu'à cette époque, le rôle du gouvernement était moins actif dans l'adaptation de la créativité des artistes à Bali. Tandis que d'autres régions, telles que Jakarta, Bandung et Yogyakarta, organise régulièrement des manifestations artistiques. Par conséquent, afin de fournir un espace d'expression aux artistes balinais, une exposition intitulée Exposition Bali Megarupa a été organisée afin de permettre aux arts de Bali de retrouver toute leur splendeur. L'exposition Bali Megarupa s'est tenue du 22 octobre au 9 novembre 2019. Avec la participation de 103 artistes allant de la peinture, la sculpture, les installations, l'art vidéo et d'autres œuvres expérimentales, l'exposition Bali Megarupa a été organisée pour créer un espace de synergie, d'interaction et une collaboration qui exploite pleinement le potentiel des arts en développement. Les œuvres d'artistes balinais sont exposées au Musée Puri Lukisan, au Musée d'Art Neka, au Musée Arma et au Bentara Budaya Bali. Les commissaires de Bali Megarupa sont Wayan Sujana Suklu, Wari Wisatana, Made Susanta Dwitanaya et Wayan Jengki Sunarta. Le thème de l'exposition est Terre, Eau et Mer. À partir de ce thème, 4 approches sont utilisées pour refléter la dynamique de l'art balinais, de la tradition au contemporain, à savoir Hulu, Arus, Champuhan et Muara. L'ouverture de l'exposition Bali Megarupa a eu lieu au Musée Arma. L'exposition a été inaugurée par le gouverneur de Bali, Wayan Koster, et présentait le chant de Megarupa du rite de l'art de Tari Rupa Bunyi de Nyoman Erawan, soutenu par un certain nombre d'artistes de divers secteurs. L'exposition sera également remplie de discussions sur Bali Megarupa, intitulée « Le mouvement des beaux-arts de Bali, un appel à la sensibilisation » qui rassemblera les orateurs Nawa Tunggal, journaliste chevronné, Bambang Budjono, homme culturel, et Kun Adnyana, artiste, chef du bureau culturel de la province de Bali. Cette discussion a eu lieu au Musée Neka le 23 octobre 2019. En outre, à la Bentara Budaya Bali, le samedi 26 octobre 2019, une causerie d'artistes intitulée Médias croisés, apparence libre, présentera des conférenciers Made Bayak, artiste musicien activiste, Chandra Utama, photographe, président de l'Association des photographes de Bali, Mones, artiste graphique mural, et Coco, artiste en vidéo. À la fin de la série d'exposition, se tiendra un séminaire dont le titre est « Connaître les lignes et divers beaux-arts » qui seront suivis par les collégiens et les lycéens au Musée Puri Lukisan le samedi 9 novembre 2019. C'était l'Indonésie en couleur.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu, dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de The Cinnamons, dont le titre est Selamanya Cinta. En plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.it. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute! Bonsoir, chers auditeurs de Voice of Indonesia. Cette édition, je vais vous présenter une chanson d'Ernie Johan. Ernie Johan, chanteuse indonésienne dans les années 70, à cette époque, ses chansons suscitaient toujours des réactions positives de la communauté, dont l'un des albums est intitulé Teluk Bayur. Par cet album, avec la chanson par intitulée Teluk Bayur, le nom d'Ernie Johan a été enregistré en tant que première chanteuse à recevoir le Golden Record, car ses ventes d'albums ont atteint des millions d'exemplaires. La chanson, dont le titre Teluk Bayur, raconte d'une personne qui doit renoncer à son amour pour le quitter pour étudier à l'étranger. Ils se sont séparés Hesedet Ruverong à Teluk Bayur, un port situé dans la ville de Padang, Sumatra de l'Ouest. Chers auditeurs, voici Teluk Bayur, chanté par Ernie Johan. Bonne écoute.
Selamat tinggal Teluk Bayur Permai. Daku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang. Bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu.
Of Indonesia.
Senja di batas kota lalu teringat padamu saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Walau senja berganti wajahmu selalu terbayang, waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu senja di
Chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3,3,5 kHz et sur le site web de www.voice.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.